11h07, on a Claude Reichmann qui est au bout du fil. Monsieur Reichmann, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien, et vous-même?
Oui.
Il fait froid chez vous?
Oui, on nous annonce un moins 30 degrés.
Ah oui, je vous ai entendu dire l'autre jour sur votre antenne que vous n'aimiez pas le froid.
Non, je déteste. Malheureux.
Alors, écoutez, je vous propose une chose. Allez vous installer plus au sud.
Oui, justement, nous sommes plus au sud. Nous sommes hébergés au Texas au niveau de nos serveurs et nous aimerions être là-bas aussi.
Bon, écoutez, voilà un point qui me rassure.
Alors. Oui, tout à fait. Monsieur Reichmann, on est en train de discuter, comme je vous le faisais savoir, hors d'onde, de Lise Thibault, lieutenant-gouverneur, qui refuse d'expliquer les dépenses personnelles qu'elle se fait rembourser. Est-ce que vous êtes aux prises en Europe, un peu avec cette même facette-là, je ne sais pas, des élus?
Oui, nous avons exactement les mêmes problèmes. Il a fallu les pousser vraiment jusque dans leur dernier retranchement pour qu'on commence à connaître un certain nombre de choses. Et vous savez que cette affaire est au cœur de la campagne électorale présidentielle en France actuellement, puisque des révélations qui, pour la plupart, ont pris naissance sur Internet, ont appris aux Français, par exemple, que M. Hollande et Mme Royal payaient l'impôt sur la fortune, qu'ils sont titulaires d'un patrimoine immobilier tout à fait respectable, ce qui rend assez comique les déclarations de M. Hollande disant « je n'aime pas les riches ». Il ne s'aime pas lui-même, alors ça doit être ça. Enfin, pour élargir un peu le sujet, c'est effectivement du domaine du tabou. Et c'est un tabou qui est scandaleux à tous égards, parce que il s'agit d'argent public. Moi, je suis favorable à l'entreprise privée et je ne vais pas regarder dans la poche de mon voisin s'il gagne sa vie par ses propres moyens. Ce qu'il gagne, ça ne me regarde pas. En revanche, un élu est quelqu'un qui assume un mandat public pour lequel nous l'avons délégué et il nous doit des comptes. Et ces comptes en particulier passent par ses dépenses, par ce qu'il touche. Et il y a en France un cas... C'est un cas assez particulier puisque la plupart des politiciens sont des fonctionnaires d'origine et qu'ils n'ont jamais vécu autrement que de l'argent public. Alors ça rend évidemment leur enrichissement tout à fait scandaleux parce que autant il est normal qu'un député ou un ministre soit indemnisé puisqu'il doit arrêter son travail s'il en a un, mais autant acquérir une fortune importante, car je vous dis, l'impôt sur la fortune affecte beaucoup de nos politiciens, c'est quelque chose qui n'est pas normal, et d'une façon générale, les politiciens détestent qu'on parle de cela, ils ont toujours tendance à dire qu'on leur fait un mauvais procès, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ont un métier très pénible, qu'ils font des séances de nuit, enfin bref, c'est tellement les jérémiades permanentes que nous avons décidé, avec la Révolution bleue, demain, de faire une manifestation de solidarité avec les politiciens nécessiteux, car ils pleurent tellement sur leur sort qu'il faut leur venir en aide. Alors, à l'issue de cette manifestation, que nous allons tenir d'ailleurs non loin de l'endroit où M. Hollande et Mme Royal ont logé leur société civile immobilière qui abrite leur patrimoine immobilier, à l'issue de cette manifestation, nous allons organiser une quête. Alors, une quête au profit des politiciens nécessiteux. Et pour faire bonne mesure et pour être tout à fait en ligne avec le comportement des politiciens, nous allons détourner ensuite le produit de la quête au profit de la Révolution bleue. Donc, comme ça, la boucle sera bouclée, nous aurons été à la fois solidaires et malhonnêtes.
Parce que...
C'est-à-dire, en fait, c'est une opération de dérision, bien sûr, dans l'objectif est de se moquer et d'augmenter la pression sur les politiciens pour qu'ils reviennent à des mœurs peut-être un peu plus spartiates.
On nous fait savoir, Monsieur Reichmann, que Ségolène Royal s'est fait partie une partie de l'appartement de Boulogne payée en liquide.
Alors c'est ce qu'on a dit, mais je n'ai pas de preuve.
Ok.
Il faut se méfier un petit peu de ce qui circule sur Internet.
Oui, tout à fait.
C'est parfois le meilleur et parfois le pire. Hein, donc moi j'ai pour principe de vérifier mes informations, donc à celle-ci je n'en ai aucune vérification, donc je préfère m'abstenir de le commenter.
Non, vous faites bien, au contraire, c'est correct comme ça, parce que nous ici, madame la lieutenant-gouverneure en question a dépensé pour une pièce d'or, 22 carats, $425 canadiens, ce qui donne à peu près aux alentours de 500 euros ou quelque chose comme ça, a dépensé, mais veut pas justifier à qui elle a remis aussi cette pièce d'or. C'est toujours surprenant de voir, ah, mais là, quand vient le temps d'expliquer les choses, là, non, nos élus, M. Reichmann, ne désirent absolument pas dire, mais pourquoi et comment, c'est comme si on devrait fermer les yeux, nous, à titre de contribuables, avec l'argent qu'on leur remet entre les mains.
Oui, mais c'est absolument anormal, et d'ailleurs, il est curieux qu'on fasse un cadeau de cette nature, et en tout cas, si c'est un cadeau, il ne peut être qu'officiel, parce que quand on est aux fonctions qu'occupe cette dame, et qu'elle se fait rembourser, c'est donc un cadeau officiel, ça ne peut pas être un cadeau privé, sinon ce serait du détournement de fonds avéré. Donc, à partir du moment où c'est officiel, eh bien, il faut le dire, puisque par définition, ce qui est officiel ne peut pas être secret.
Là, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des exemples de votre côté? Est-ce que Jacques Chirac peut faire partie des individus qui dépensent comme ça, les yeux fermés, l'argent?
Oui, Jacques Chirac, de toute façon, c'est un homme qui n'a jamais vécu que dans les palais officiels et de l'argent public. Il n'a jamais, vraiment ce qui s'appelle jamais, travaillé, c'est-à-dire il n'est jamais allé gagner de l'argent, sauf peut-être au tout début de sa jeunesse, quand il est allé aux États-Unis et qu'il a, il est encore étudiant je crois, et qu'il a servi de chauffeur à une riche dame américaine, mais à part ça, il ne sait pas ce que c'est que le travail. Et alors, sous sa présidence, les dépenses de l'Élysée ont augmenté de façon vertigineuse. Donc, vous savez, les politiciens ont une extraordinaire capacité à dépenser de plus en plus. Évidemment, puisqu'ils ne souffrent jamais du résultat de leurs dépenses, c'est-à-dire l'appauvrissement. L'appauvrissement affecte les contribuables, mais les hommes de l'État, quant à eux, quand il y a un problème, ils augmentent les impôts, et donc ils n'ont jamais la sanction que constitue pour un contribuable le fait d'avoir son compte en banque vide et d'être à découvert. Donc Chirac est un homme qui sait... personne ne sait s'il s'est réellement enrichi. C'est-à-dire que pour savoir si quelqu'un s'est enrichi, il faut connaître s'il a des biens au soleil. Alors il en a, en particulier il a un château, qui est le château de Bity, qui est en Corrèze, alors que là encore il l'a fait, parce que ça c'est public, il l'a fait l'ayant acheté à un assez bon prix, il l'a fait rénover aux frais de l'État, parce qu'il l'a fait classer comme monument historique, et donc ce château a pris beaucoup de valeur, mais enfin ce n'est pas une valeur astronomique comme certaines fortunes faites par les politiques, mais certains disent, mais là encore nous n'avons pas de preuves, qu'il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique tous ces temps-ci sur un compte bancaire très fortement nourri, qu'il aurait au Japon, mais la presse en a fait beaucoup d'écho, mais oui. Là encore il n'y a eu aucune preuve décisive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Jacques Chirac n'a pas de problème d'argent.
Et M. Reichmann, dans le fond, l'affaire Clearstream, est-ce que c'est réglé, ça? C'est mort et enterré, je ne sais pas?
Non, l'affaire Clearstream, en fait, apparaît comme une manipulation pure et simple. Il semble bien qu'il n'y ait aucune réalité dans ces comptes qui ont été imaginés apparemment par un informaticien. Mais c'est une affaire qui est, comme l'a dit le juge Van Ruymbeck, qui est actuellement critiqué pour avoir mené son instruction d'une manière, paraît-il, pas tout à fait régulière, ce qui est étonnant parce que c'est un grand magistrat, mais il l'a dit, il l'a répété, l'affaire Clearstream n'est qu'une bulle à la surface de la véritable affaire qui est celle des frégates de Taïwan, puisque la France a vendu à Taïwan des frégates avec des commissions et des rétrocommissions absolument astronomiques, dont on n'a pas réussi jusqu'à présent à retrouver la trace, et dont on pourrait facilement retrouver la trace, puisque ces commissions figurent dans les archives du ministère de la Défense.
Ah, tiens donc.
Et donc, à cela, ou peut-être du ministère des Finances, je ne me souviens plus exactement quel est le ministère qui les détient, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque demande des magistrats de vérifier auprès du ministère qui détient ces documents, ce qu'ils contiennent, on a opposé le secret défense. C'est-à-dire, c'est une disposition qui permet au pouvoir public, à l'État, au gouvernement, de dissimuler un certain nombre de choses, même aux magistrats, au motif que cela mettrait en péril la défense nationale. Mais en vérité, dans cette affaire, ce n'est pas la défense nationale que ça mettrait en péril, mais simplement l'intégrité d'un certain nombre de politiciens ou d'hommes d'affaires qui ont touché des sommes faramineuses, mais vraiment faramineuses. Et alors, la France va doublement perdre dans cette affaire, puisque il y avait un contrat au départ avec Taïwan qui indiquait que si des commissions ou des rétrocommissions étaient versées, elles étaient interdites, bien sûr, par le contrat, et la France devrait à ce moment-là rembourser des sommes très importantes à Taïwan. Et alors, il y a un arbitrage qui est en cours en ce moment en Suisse, et d'après les spécialistes, la France va perdre cet arbitrage. Elle va devoir donner des milliards à Taïwan pour la raison qu'elle a distribué des commissions et des rétro-commissions. Donc vous voyez, c'est une affaire infiniment plus importante. Alors là, c'est vraiment une affaire qui peut faire sauter l'État.
Oui.
Mais on est quand même à la merci en France.
C'est ça.
Quand je dis à la merci, c'est même favorable, parce que il suffirait qu'un gouvernement accepte de lever le secret défense pour que tout soit révélé.
Oh.
Et là, je pense que l'on verrait sauter un certain nombre de personnages.
Et est-ce que vous croyez que cela va se faire ou pas du tout?
Bah écoutez, dans les circonstances actuelles, ça ne se fera pas. Mais les circonstances actuelles vont changer parce que le régime est fragile. Il est fragile pour une raison simple, c'est qu'il a vraiment appauvri beaucoup les Français en 30 ans. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en 1974, quand le président Pompidou est décédé et que le Premier ministre, M. Mesmer, a donc quitté l'hôtel Matignon, M. Giscard d'Estaing a été à ce moment-là élu président de la République, la France n'avait ni déficit ni dette, c'est-à-dire que le budget était en équilibre et naturellement il n'y avait pas de dette puisqu'il n'était pas nécessaire de couvrir le déficit. Aujourd'hui, nous avons un déficit budgétaire qui est de l'ordre de à peu près 300 milliards de francs, c'est-à-dire cinquantaine de milliards d'euros chaque année, et parfois plus, et une dette publique qui est de l'ordre de 1200 milliards d'euros. C'est absolument faramineuse, sans parler de la dette que l'État a contractée vis-à-vis de ses fonctionnaires, puisqu'elle doit payer leur retraite, et ça augmente la dette d'à peu près 900 milliards d'euros de plus. C'est-à-dire que les Français doivent actuellement, soit à des créanciers étrangers, soit à leurs fonctionnaires, plus de 2000 milliards d'euros. C'est des sommes absolument considérables.
Alors tous les Français sont endettés en réalité, ils travaillent que pour essayer de faire baisser la dette, point.
Non, ils travaillent même pas. Ils travaillent pour qu'elle augmente, puisque chaque année il y a un déficit. Donc c'est absolument épouvantable. Et vous savez, ce qui est absolument terrible dans cette affaire, c'est que ce déficit et cette dette sont composés de telle manière que les Français vont être doublement pénalisés, parce que l'essentiel de la dette est couvert par les fonds de pension, les obligations, voilà, c'est ça, l'assurance vie, les obligations du Trésor. C'est l'assurance vie à 70% environ est financée, quand les compagnies d'assurance vous vendent un contrat d'assurance vie, ils achètent ensuite des obligations du Trésor. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'ils prêtent à l'État français.
Okay.
Et donc, vous savez-vous que les Français ont actuellement à peu près 1100, 1200 milliards en assurance vie. Et figurez-vous que c'est exactement le montant de la dette, si on exclut les obligations envers les fonctionnaires. Donc la réponse est extrêmement simple désormais. Les Français peuvent s'attendre à voir leur assurance vie ne pas être remboursée parce que, d'ailleurs, certains hauts fonctionnaires ne s'en cachent même pas, la dette, on ne la paiera pas puisque ce sont les Français qui la paieront. Donc ils ont souscrit des assurances vie, ils espéraient maintenir jusqu'à leur retraite, en tout cas garder comme une sorte de sécurité. Ils vont en être frustrés. Et tout ceci, c'est une fois de plus l'illustration qu'il ne faut jamais faire confiance à l'État. L'État est par définition malhonnête. Et là, on en a une illustration de plus. C'est extrêmement grave, parce que les régimes de retraite français sont très menacés, parce qu'ils sont tous en répartition. Or, vous savez qu'en répartition, il faut qu'il y ait un nombre de cotisants toujours à peu près identique, parce que sinon, le régime se déséquilibre. Et là, actuellement, la démographie française est telle que le nombre de cotisants ne cesse de diminuer, et bientôt nous aurons un retraité pour un cotisant. C'est-à-dire qu'il va falloir pour un Français qu'il se fasse vivre lui-même, qu'il fasse vivre sa famille, qu'il fasse vivre l'État, et qu'en plus il fasse vivre un retraité. Donc vous imaginez le tableau de ce que ça va être. Ça va être apocalyptique. Et comme l'assurance vie qu'il a contractée par sécurité ne lui sera pas remboursée parce que l'État sera en faillite, incapable de le faire, eh bien, il sera ruiné. Et vous allez avoir des Français qui vont être en haillons si ça continue comme ça. Et je crains que ça ne continue parce que les candidats, les principaux candidats, ceux qui ont une chance d'être élus, n'ont même jamais abordé le sujet dans la campagne électorale.
Et croyez-vous que ça va cesser ou c'est toujours en train de se faire? Les gens, les députés, les élus dépensent toujours l'argent des contribuables français. Est-ce que ça se fait encore? Parce que nous, on a l'impression, vous voyez, encore ce matin, comme je vous l'ai fait savoir au début de l'entrevue, la lieutenant-gouverneur qui dépense l'argent, mais qui veut pas justifier... qui veut pas justifier du tout ses dépenses. Et on a, et ça c'est pour le Québec, attention, mais du côté canadien, la lieutenant-gouverneure qui est Michaëlle Jean, elle est rendue une facture quand même assez salée. On parle de 59 000 $ pour un garden party, monsieur Reichmann.
Ah oui. Oui, ben c'est exactement la même chose quand vous avez dans tous les ministères, vous avez la valse des petits fours, la valse du champagne. Ben, on dépense à tour de bras. Vous savez, l'argent public, par définition, est illimité. Donc, quand vous êtes détenteur et que vous n'êtes pas strictement honnête, vous avez de l'argent à peu près autant que vous en voulez, en tout cas très largement, et vous le dépensez par large brassée. Et ceci, bien entendu, n'est pas réellement connu du public, puisque les comptes qui sont présentés sont des comptes globaux. Alors, on vous dit, voilà, le ministère de la Culture a dépensé tant. Alors, on croit que c'est pour promouvoir la culture, et souvent, c'est pour promouvoir la vente des petits fours, quoi.
La vente des petits fours!
Oui. Et c'est partout pareil.
Et malheureusement, on n'aura pas le droit d'y goûter aux petits fours.
Ben, nous, non, mais si vous êtes bien vu par le régime, vous pouvez aller essayer de manger des petits fours. Enfin, moi, personnellement, je ne vais jamais dans les cocktails, et je ne mange pas du tout dans les cocktails, parce que j'ai l'impression de manger mon argent à moi et que ça ne me plaît pas. Mais il y en a d'autres que ça ne dérange pas.
Monsieur...
Ces cérémonies sont très prisées des gens. Et vous savez, je vais raconter une anecdote à propos de l'argent public. Un jour, devant chez moi, passe une manifestation. J'habite dans une rue où fréquemment il y a des manifestations. Et rentrant donc de je ne sais plus d'où, mais j'avais à traverser la rue... Et c'était un peu difficile parce que le cortège était très serré. C'était les fonctionnaires.
Oui.
Et ils criaient « des sous, des sous, des sous ». Alors, en traversant, il y avait une femme qui criait particulièrement fort. Et je lui dis « Mais madame, mais pourquoi vous me demandez des sous ?» Je dis « Vous, je vous demande rien, me dites. » »« Mais si, mais, les sous, vous êtes fonctionnaire, vous demandez des sous à l'État, et l'État, c'est moi. » Alors donc, et je lui dis « Mais en plus, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous en demandez à vous-même, parce que vous êtes aussi contribuable. » Alors à ce moment-là, il y a un gars du service d'ordre qui s'est approché et qui a dit « Ne lui parle pas, c'est un provocateur !» Mais ce que je lui avais dit était juste. C'est vrai, quand on demande des sous, bah, les braves gens qui regardent passer les cortèges ne se rendent pas compte que c'est à eux qu'on demande des sous. Et ceux qui sont dans les cortèges, comme je l'ai dit, se les demandent à eux-mêmes. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faudrait faire, voyez-vous, pour faire comprendre l'économie. Il y a quelqu'un qui savait très bien faire ça, c'était Ronald Reagan.
Ah.
Il faisait des petites causeries dans des radios, et qui étaient reprises par toute une série de chaînes de stations de radio. Et il racontait comme ça des petites histoires très simples, qui étaient très illustratrices et qui faisaient comprendre des autres choses aux gens. Et lorsqu'il a été élu président, il n'a pas eu tellement de difficultés à se faire comprendre parce que il avait déjà largement expliqué aux Américains ce qu'était sa pensée et ce que serait sa politique. Et ce qui manque en politique en général, ce sont des pédagogues. Or, le mot pédagogie est un peu prétentieux, parfois un peu faussement savant, mais en réalité, le rôle d'un homme politique, avant tout, c'est d'expliquer aux gens la société et la politique. Et chez nous, alors je suppose que chez vous c'est à peu près la même chose.
À peu près.
L'homme politique n'a qu'un seul souci, comment arriver à mentir le mieux possible.
Voilà. Je pourrais vous conter cette histoire de journaliste qui a fait un saut en politique. Ça fait à peine 3 ou 4 jours que ça s'est fait. Il s'appelle Bernard Drainville. Pour tomber sur l'honnêteté de nos politiciens, ou enfin les gens qui font le saut en politique, M. Reichmann.
Oui.
Et Bernard Drainville était journaliste à la Société de Radio-Canada. Gagne un très bon salaire. Il est chef de bureau là-bas. Et le Parti québécois l'a approché pour qu'il devienne député dans Marie-Victorin, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que il a fait une entrevue avec le chef du PQ une journée avant de faire le saut.
Oui.
Avant de faire le saut au niveau du Parti québécois. Et avant qu'il fasse le saut, il a téléphoné l'attaché de presse du camp adverse, le camp du Parti libéral, et il a demandé des informations privilégiées à titre de journaliste de Radio-Canada. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit là? Alors là, ça a été la merde totale. Surtout pour cet individu-là, et ça commence bien sa carrière politique à titre de menteur. Il a utilisé ça contre eux.
Ben écoutez, je crois que sa carrière politique ne va pas aller très loin, là, j'ai l'impression, parce que de deux choses l'une, ou bien il gardera le secret sur ce qu'il apprendra, et dans ce cas-là, il sera admis par le camp politique, ou bien il dira des choses, et à ce moment-là, il sera rejeté impitoyablement.
Probablement.
C'est la règle du jeu, c'est comme ça que les choses se passent. Le milieu politique est... comme la plupart des milieux d'ailleurs, mais surtout les milieux de pouvoir, fonctionnent sur le principe de la mafia. C'est-à-dire qu'il y a l'omerta, on n'a pas le droit de dire certaines choses. Celui qui les dit est condamné à mort. Alors la mort peut être purement civile ou purement économique, mais ce qui est certain, c'est que les milieux politiques, sauf dans des pays réellement démocratiques, sont des milieux qui vraiment ressortissent des règles de la mafia.
Monsieur Reichmann, je veux mettre carte sur table avec vous. On m'a envoyé un email cette semaine. Est-ce qu'on peut aborder que ce soit une fraction de seconde? Ce que j'ai décidé de faire est simple, c'est que il y a un certain Serge de Bekech qui a essayé de nous contacter afin de passer sur les ondes, histoire de contredire les faits. J'ai préféré accepter, parce que j'ai été honnête envers vous aussi, Monsieur Reichmann. Je vous ai envoyé un courriel et je vous ai demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'ai pris plutôt votre camp d'une certaine façon, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et j'aimerais peut-être que vous nous spécifiez quel genre d'individu il est sur le www.rocky.com ou Wake Up Le Show, si vous voulez commenter, que ce soit une seconde, nous dire à qui on avait affaire chez Radio Courtoisie.
Ben écoutez, c'est un homme qui a été un des fondateurs d'ailleurs de Radio Courtoisie et qui pendant les 19 années que Radio Courtoisie a duré et dure encore pour l'instant, a fait des émissions qui souvent avaient un caractère insultant, parfois même dangereux sur le plan des lois, et donc plusieurs fois la radio a été, je dirais, menacée par ces déclarations, et encore récemment elle a dû publier un communiqué d'excuses en quelque sorte, puisqu'il avait tenu des propos dont la connotation était, paraît-il, raciste. Moi je ne les avais pas entendus, mais j'ai vu ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait indiqué. Et donc c'est quelqu'un qui passe son temps à provoquer les autres. Alors il m'attaque en permanence sur la radio, je ne lui ai jamais répondu et je ne lui répondrai jamais parce que ça n'est pas dans ma nature ni dans mon esprit, il ne m'intéresse pas, ce qu'il peut dire ou ne pas dire est pour moi sans aucune importance. Et il passe son temps à me poursuivre de ses assiduités, alors au moins sur le plan radiophonique, pas pour le reste parce que... Il ne s'agit pas de ça du tout, mais moi, ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Bon, qu'il continue à dire ce qu'il veut, je suis partisan de la liberté, et en ce qui me concerne, si cette liberté va jusqu'à l'insulte ou vers la diffamation, je le poursuivrai en justice, mais s'il se contente de ses propos un peu ridicules, ben, qu'il reste ridicule. Le plus amusant de l'affaire, quand même, c'est que récemment, il a repris... je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois.
Allez-y.
J'ai mené pendant 15 ans un combat en vue de la suppression du monopole de la sécurité sociale. Ce combat est victorieux. Il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale. C'est un petit peu difficile à faire passer les lois dans les faits, mais nous avons fait voter toutes les lois par les pressions que nous avons exercées sur les autorités européennes et sur les procès que nous avons gagnés devant la Cour de justice européenne. Et donc, étant en conflit avec Monsieur de Lesquin, qui se prétend le nouveau directeur de la radio, celui-ci, qui est un haut fonctionnaire et qui en charge en particulier de la sécurité sociale, a fait prendre à son club, le club de l'horloge, un communiqué dans lequel il me traite de charlatan, etc., etc. Et Monsieur de Bekech, qui a vraiment un nez extraordinaire, sans vérifier aucune information, a repris, paraît-il, ce communiqué. C'est-à-dire que ces gens expliquent que le monopole de la sécurité sociale existe toujours, que je suis quelqu'un de pas sérieux, que je mets les gens en difficulté, etc. Alors ils n'ont pas de chance, Parce qu'au moment même où il prenait ce communiqué, la Cour européenne de justice prenait un arrêt qui confirmait définitivement la fin du monopole de la sécurité sociale. Donc, on est vraiment dans un cas de figure très, très, très cocasse. Vous avez des gens qui viennent vous attaquer sur un sujet qui n'est pas leur d'ailleurs et auquel ils ne connaissent rien, et qui avec une imprudence folle disent que vous êtes un charlatan et quelqu'un qui raconte n'importe quoi, au moment où la plus haute autorité judiciaire européenne vient confirmer chacun de mes dires. Alors, bon, si le ridicule tuait, ben, il serait déjà mort. Mais bon, comme il paraît que le ridicule ne tue plus, donc je pense qu'ils vont encore rester en vie.
Monsieur Reichmann, vous allez venir comme ça, on vous lâche un coup de fil à tous les vendredis.
Plaisir. Et on commentera, si vous le voulez bien, chaque vendredi, l'enrichissement des politiciens. Je vous propose qu'on mette une sorte de tirelire.
Oui.
Et puis chaque semaine, ce sera un peu plus.
Comme
ça, on aura illustré vraiment les progrès de la démocratie.
Exactement, Monsieur Reichmann. Et c'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.
Merci, à vendredi prochain.
Dernière chose, on m'a parlé...
Oui.
Bon, c'est vrai, vous avez la manifestation en fin de semaine. C'est bien ça, c'est samedi ou dimanche?
C'est demain, samedi. À 15h à Paris.
Il y a une demoiselle qui nous écrit souvent et qui apprécie énormément votre verbe et elle voulait savoir justement si, bon, en tout cas, ça s'adresse pas à vous directement, mais elle voulait lancer un message d'avoir des pancartes avec Rocket.com et Reichmann. Écoutez,
ah bon? En tout cas, il y aura demain des pancartes. Il y aura deux pancartes. L'une dira « Des sous pour les pauvres politiciens ». Et l'autre dira « À votre bon cœur pour les pauvres politiciens ». Voilà, nous avons des gens qui font des belles pancartes et vous pourrez les voir sur nos sites internet, elles seront photographiées.
Oui, s'il vous plaît, c'est ça, on aimerait les voir,
voilà, vous les verrez, il n'y a pas de problème.
Merci, M. Reichmann. C'est histoire,
à très bientôt,
c'est histoire aussi de vous faire de la pub.
Merci.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Salut.
Au revoir.
Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. Histoire de se faire la pub, pourquoi pas, aussi à vous de le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pas à Claude Reichmann nécessairement, vous comprenez. Il est 11h34 minutes, on s'arrête un tout petit instant. Janik, je sais pas si tu peux me lâcher un coup de fil là, right now. Janik, peux-tu m'appeler là, right now? C'est une question assez importante que j'ai à te poser, mon cher ami. Alors, appelle-moi s'il te plaît, tu connais le numéro, bye-bye.
May I have the envelope, please? And the winner is...
Rockick.com.